Des questions, plein la tête. Toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées.
Ah bon ?
Peut-on soigner avec l'effet placebo ? Épisode 3. Le serment d'Hippocrate. Bienvenue dans Des questions plein la tête sur Radio Campus Grenoble 90.8. Dans cette émission, on trouve pas toujours de réponses, mais on découvre toujours de nouvelles questions. Dans l'épisode 2, je discutais avec Juliette Ferri-Danini au sujet de son livre « Pilule rose de l'ignorance en médecine », dans lequel elle parle du space-fond, qui ne serait en fait qu'un placebo impur. Elle m'a alors dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée.
On accepte que des médecins mentent d'une certaine façon à des patients et surtout des patientes. J'ai l'impression que ça normalise presque le mensonge en médecine, en fait. Et le problème, c'est que si on nous ment en tant que patiente, ensuite, on ne peut pas se rebeller, on ne peut pas dire non, on ne peut pas consentir. On est dans une situation de soumission. On utilise ça pour fermer la discussion, pour ne pas prendre en charge, pour ignorer la plainte.
Selon l'article 39 du Code de la santé publique, il est pourtant stipulé que les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment prouvé. J'ai donc eu envie de regarder du côté des soignants. Est-ce qu'il y a effectivement un mensonge délibéré de leur part ? Et si oui, à quel point est-ce une pratique courante ? Et surtout, quelles sont leurs motivations ? J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec une interne en médecine qui a lu ce livre et de lui demander de nous partager ses réflexions.
Je m'appelle Myriam Dergam, je suis interne en médecine générale, c'est-à-dire que maintenant je suis en 9e année. Son livre, il est brillant et elle a complètement raison. Juliette en parlait pour le space-fond, mais je pense que c'est pas non plus le seul médicament auquel on n'est pas forcément tous à jour.
Comme beaucoup d'autres praticiens, elle accueille très positivement, même si elle a des nuances importantes à apporter, notamment sur cette notion de mensonge de la part des médecins.
J'apporte une petite critique sur le dernier chapitre où je pense que la partie négociation où le médecin est juste un menteur qui veut se débarrasser du patient n'est pas assez creusée d'un point de vue de l'ensemble des facteurs qui nous incombent aujourd'hui. On a une obligation de formation continue, mais notre formation continue, c'est sur tout le corps humain, qui est très très vaste, et du coup, on a certaines priorités. On ne peut pas se tenir tout le temps au courant de tout, et c'est pas forcément de la mauvaise volonté. Moi, je n'ai jamais eu à prescrire un placebo. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, des fois en ne connaissant pas tout l'intérêt du médicament, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Parce qu'on est des êtres humains, et qu'on vient avec notre bagage socioculturel. Le space-fond, ça nous a tellement été prescrit à nous aussi, ça a toujours été notre bagage. Tu as mal au ventre, prends du space-fond. Donc on prescrit aussi en fonction de ce que nous, on a ressenti ou pas à certains moments.
Comme elle le montre bien, il ne faut pas forcément interpréter la prescription de placebo impur comme le space-fond comme un mensonge délibéré de la part des médecins. Comme elle explique, il est très difficile pour eux de se tenir à jour sur l'ensemble des avancées médicales dans tous les domaines, et ce avec des horaires par ailleurs déjà bien chargés.
La vérité aussi, c'est qu'on fait des gros horaires, malgré ce que disent certains patients, et quand je rentre chez moi, eh ben, en fait, je suis fatiguée. On paye les erreurs des années 70-80 avec la réduction du numerus clausus, avec l'augmentation de l'espérance de vie qui n'a pas été anticipée, avec le changement générationnel, parce que moi, c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. Oui, les femmes, elles veulent plus travailler aujourd'hui. Eh ben oui, en fait, toute la société est à 35 heures. J'en fais 45. Je considère que je ne peux pas faire plus, aussi bien pour ma santé mentale que pour la santé mentale de ma famille. En fait, c'est pas viable, ces médecins qui faisaient 8h, 23h et qui travaillaient tous les week-ends. Sans compter que dans les zones franches urbaines, on a ce rôle de médecin généraliste, mais ce rôle extrêmement important social. On encaisse énormément de choses. On a besoin d'analyse, de la pratique, enfin des choses comme ça, qui font aussi partie de notre métier, qui font aussi partie du temps. Ça fait partie de nos besoins, même si on n'est pas en face du patient.
Un autre angle important qu'elle apporte, à mon sens, c'est le rôle que joue également le patient dans la prescription d'un médicament dont il ou elle a l'habitude.
On a un partenariat avec nos patients. Pour le space-fond, c'est compliqué parce que c'est un médicament qui est ancré culturellement. Si bien que moi, notamment depuis l'apparition du livre de Juliette, je refuse de le prescrire en disant « je ne prescris pas un traitement que je sais placebo ». Mais les patients m'en veulent en disant « je ne veux pas payer un traitement qui est gratuit ». Et là, je leur dis qu'il n'est pas gratuit, qu'il est remboursé sur la sécurité sociale, mais qu'il n'a pas de service médical rendu. Donc que je ne veux pas y mettre mon nom, d'autant plus qu'il y a des cas d'allergie et que c'est quand même ma responsabilité médicale que j'engage. Si on tentait un traitement efficace, on va voir. Mais ça, c'est difficilement compris. La semaine dernière, j'ai refusé de prescrire un antibiotique pour une rhinopharyngite. Je suis une petite femme racisée. Le patient est venu 3 jours après. Mon collègue homme lui a dit la même chose, il n'a pas négocié. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte dans nos négociations. En fait, quand on est médecin, c'est une négociation avec le patient. Et que si le patient est en demande, en fait, nous, on est coincé. Et que même avec notre bonne volonté, tout notre savoir et toute notre bienveillance, on n'y arrive pas. C'est aussi se dire qu'on perd cette alliance en disant « le médecin, vous préférez me laisser souffrir ».
Je trouve que cet échange avec Myriam permet de souligner toute la complexité qui entre en jeu dans la relation entre médecin et patient, qui est d'ailleurs au centre de l'effet placebo. Cela reste toutefois la pratique et la perspective d'une médecin généraliste seulement. À quel point est-elle le reflet de la profession dans son ensemble? J'ai voulu savoir si des données existaient à ce sujet. Il y a peu d'études, mais il y en a toutefois deux qui peuvent nous donner un aperçu intéressant. La première a été conduite en 2019 pour connaître l'usage de placebo dans les hôpitaux en France. Celle-ci confirme que l'utilisation consciente de placebo à l'hôpital est fréquente, près des deux tiers des professionnels ayant répondu, déclarant en faire usage. Il est administré principalement la nuit, en cas de douleur, d'insomnie ou d'anxiété, à des patients dits « difficiles », c'est-à-dire solliciteurs d'attention et de soins, pour mettre un terme à leurs plaintes et leur apporter un confort. Ils imaginent ainsi éviter le risque d'interaction médicamenteuse. Le placebo constitue alors une sorte de traitement miracle.
Le remède miracle.
Et les professionnels estiment qu'ils ne prennent aucun risque en l'utilisant. Dans la plupart des cas, les patients ne sont pas informés qu'il s'agit d'un placebo. La seconde étude, réalisée en 2016, portait sur la prescription de placebo impur en médecine générale en Picardie. Plus des trois quarts des médecins interrogés affirmaient prescrire des placebos impurs. Et la majorité n'informait pas ou peu le patient sur la nature du traitement prescrit. Le premier motif évoqué était la pression et demande du patient. Le fait d'en prescrire permettait, selon eux, d'entretenir la confiance des patients tout en maintenant l'image de puissance du médecin prescripteur. Cette pratique s'inscrit aussi dans l'habitude des médecins et des patients à clore la consultation par la remise de l'ordonnance. Le médicament permet alors de matérialiser le soin et constitue la preuve de l'état de maladie dont le malade nécessite la reconnaissance. Ceux qui se refusent à en prescrire, quant à eux, préconisent plutôt la réassurance du patient, son information, la prévention et l'éducation. Ils invoquent un devoir d'honnêteté pour ne pas entraîner de croyances erronées. Il semble donc qu'un vrai débat éthique existe, avec des prises de position qui peuvent être très opposées. J'ai donc eu envie d'entendre ce que d'autres praticiens avaient à dire, et les extraits suivants de débats publics entre des soignants illustrent en effet bien ces divergences.
Moi, j'ai très envie d'intervenir sur le mensonge, en disant par exemple qu'un médecin qui ne ment pas ne fait pas correctement son boulot. Que, historiquement, quand même, dans la République de Platon, la seule profession pour laquelle on a le droit de mentir, ce sont les médecins, pour Platon. C'est pas aussi clair, là. Toute la vérité d'un côté, le mensonge tout de l'autre. Faut peut-être habilement manier les deux. C'est ça, peut-être aussi, l'art médical.
Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'interroge sur cette notion de vérité. Et souvent, on a une confusion entre une vérité scientifique ou ontologique et puis un modèle moral qu'on désire comme étant une peut-être vérité éthique. Et donc, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Quand on parle de ce nouveau contexte médical qui ne serait plus paternaliste, où on enlève la magie, où on enlève le paternalisme, où on enlève le mensonge, je suis pas sûr qu'on fasse une bonne chose. On doit reconnaître ce rôle éthique du médecin ou alors du guérisseur qui est justement d'aider la personne à se rassurer et à ne pas tout dire.
Je pense qu'il est possible d'avoir les deux, d'avoir la vérité et d'avoir la magie. Et oui, l'équilibre est difficile et l'équilibre n'a pas besoin d'être parfait. Comme patiente, je suis partenaire de mes soins. Je veux savoir, je veux avoir l'heure juste. Je veux aussi bénéficier de l'expertise du médecin qui va m'assurer que oui, ce médicament-là fonctionne. Et je ne veux pas le mensonge qui irait m'inventer une réalité qui n'existe pas.
La recherche de certitude, c'est plus ce qu'on cherche quand on va consulter un médecin, je pense. On cherche plus cette certitude-là, l'autorité suprême sur la santé, la maladie, puis comment y remédier à la maladie. Donc, en fait, le doute dans un contexte comme ça, de tango, où certaines fois il faut diriger, puis d'autres fois il faut se laisser diriger, puis écouter, je pense que c'est peut-être la meilleure solution, mais surtout pas vous demander d'avoir la certitude et d'afficher une certitude face à ce qui est le mieux pour le patient.
Il y a donc, d'un côté, ceux qui estiment que ce qui prime, c'est l'objectif de soin du patient, et que, dans cette optique, la fin justifie les moyens, y compris le mensonge. De l'autre, les défenseurs de la transparence, considérant que l'alliance thérapeutique et le consentement du patient prévalent. Et, entre les deux, toutes les nuances semblent exister. Il est intéressant de constater que la perception des attentes des patients par les soignants est en réalité souvent erronée. Il existe en effet une surestimation des attentes de prescription de médicaments. Par exemple, 58% des médecins français ressentent une attente de prescription pour les rhumes, alors qu'en réalité, seulement 24% des patients souhaitent en recevoir une. Il a été montré que le meilleur facteur de satisfaction du patient vis-à-vis de la consultation n'est pas la prescription d'un médicament, mais plutôt un diagnostic clair, des explications et une écoute compréhensive. On arrive à la fin de ce troisième épisode, et comme vous l'avez peut-être remarqué, plutôt que d'explorer tout le potentiel de l'effet placebo, on a finalement plutôt décortiqué, dans ces deux derniers épisodes, les problèmes et questions que ça soulève. Alors, est-ce que ça veut dire que l'étude de l'effet placebo est dénuée d'intérêt? Que c'est une fausse piste, une sorte de mirage qu'il faut arrêter de poursuivre? La bonne nouvelle, c'est que pas forcément. Il y a aussi des horizons passionnants qui s'ouvrent, notamment autour des recherches menées par l'équipe de Nicolas Pinceau. Parce que figurez-vous qu'en fait, on n'est pas obligé de mentir aux patients pour que ça marche. Je vous raconte tout ça au prochain épisode. Rendez-vous demain, même heure. Et en attendant...
Est-ce que je te demande si ton coiffeur joue du banjo ?
Des questions plein la tête ? Une série à réécouter en podcast sur Radio Campus Grenoble à la page de l'émission. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. My